La suite dans les idées, Sylvain Bourmeau. Il y a deux semaines, deux grands sociologues américains étaient invités à la suite dans les idées pour parler d'un livre qu'ils ont coécrit avec trois autres de leurs collègues. C'était Emmanuel Wallerstein et Randall Collins qui parlaient de l'avenir du capitalisme. Et la question qu'on se posait, c'était: le capitalisme peut-il se survivre ? Aujourd'hui, nous allons approfondir cette question en nous apercevant, c'est la thèse du livre dont nous parlons aujourd'hui avec Wolfgang Streck, que le capitalisme est déjà dans un mode survie en quelque sorte. Wolfgang Streck, bonjour. Vous êtes sociologue, économiste, vous travaillez à l'Institut pour les sciences sociales Max Planck à l'Université de Cologne et vous avez d'ailleurs dirigé cette institution et vous publiez aux éditions Gallimard dans la collection Essais du temps acheté, la crise sans cesse ajournée du capitalisme démocratique. Alors je faisais le rapprochement à l'instant avec un autre livre collectif de sociologues qui se pose la question de l'avenir du capitalisme à partir évidemment de la situation de la crise dans laquelle nous nous trouvons. Et il est bien compréhensible que les chercheurs essayent d'éclairer cette situation, soit en se projetant dans l'avenir, ce qui est le propos du livre dont nous avons parlé il y a deux semaines, soit en regardant un petit peu en arrière et en essayant de comprendre ce qui se passe dans les démocraties occidentales en particulier, qui vivent dans une économie capitaliste et qui, depuis une quarantaine d'années, connaissent cette crise. Vous avez conçu ce livre comme une série de conférences très très célèbres en Allemagne, les conférences Adorno, du nom de Theodor Adorno, qui a joué un rôle important dans ce qu'on appelle l'école de Francfort, et vous vous situez dans cette perspective. J'aimerais qu'on parte de là, Wolfgang Streck, puisqu'au fond, votre livre est peut-être d'abord et avant tout, en tout cas c'est le point de départ, une forme de réhabilitation de certaines théorie du capitalisme proposée peut-être un peu trop tôt d'une certaine manière par certains des grands auteurs de cette école de Francfort qui pointaient déjà un certain nombre de choses que seul l'avenir permettra et nous permet aujourd'hui selon vous de vérifier, Wolfgang Streck.
The theories are perishable commodities.
La théorie est périssable. La théorie, il faut la remettre sur le métier et l'examiner au fil du temps. La théorie, ce n'est pas forcément de la prévision, mais on peut identifier les faiblesses étant donné que l'on se lance parfois dans beaucoup de précisions. En l'occurrence, j'essaye de placer les événements de 2008, la crise financière de 2008, dans une perspective historique à plus long terme. Ainsi, il m'était utile de démarrer dans les années 70, époque à laquelle les Trente Glorieuses arrivaient à leur fin, époque à laquelle on arrivait à une situation plus ou moins de stabilisation d'après-guerre. Et là, j'ai regardé les théories de la sociologie critique de l'époque pour voir dans quelle mesure cela pouvait permettre d'expliquer ce qui est survenu par la suite et où se trouvaient les errements. Dans ma propre lecture, je me suis aperçu que les 40 ans écoulés depuis lors sont caractérisés par une vitalité étonnante du capitalisme et des capitalistes et des marchés capitalistes. Et ils ont pu se soustraire au pacte social de l'après-guerre dans une mesure que nous n'avions pas anticipée. Et cela a créé un déséquilibre permanent sur le plan politique, mais aussi sur le plan économique. Et j'essaye, quant à moi, de préciser les sources de ce déséquilibre et la façon dont nous sommes arrivés à la situation que nous connaissons aujourd'hui.
L'une des choses importantes pour vous, du point de vue de la méthode, c'est de toujours considérer les situations comme des situations dynamiques, comme des processus. Néanmoins, vous rejoignez les auteurs qui étaient dans cette émission il y a deux semaines en cela que vous pensez aussi que c'est au tournant des années 60-70, au début des années 70, que s'opère véritablement une bascule vers une autre époque et que l'on peut remonter à ce moment-là pour comprendre les origines, en quelque sorte, de la crise du capitalisme qui a pris une forme financière par la suite, mais qui naît véritablement à ce moment-là. Comment caractériser, selon vous, ce moment, ce tournant du début des années 70, Wolfgang Streck?
Yeah, first of all, one has to say that we are dealing.
Tout d'abord, il faut bien se rendre compte qu'il s'agit d'une combinaison assez frappante de contradictions permanentes sous-jacentes et de décisions et d'évolutions politiques qui ne sont pas nécessairement la résultante de ces contradictions. Autrement dit, dès que l'on se met à penser en termes de séquences historiques, on est face à un problème compliqué qui est celui de l'interaction entre des tendances structurelles sous-jacentes et des décisions, des discours politiques, des changements culturels et ainsi de suite, où les facteurs ne peuvent pas se prévoir les uns les autres, mais où tous les éléments interagissent les uns avec les autres. En rétrospectivement, on voit la logique de l'évolution, mais à tout moment, dans la séquence, on ne pouvait pas prévoir l'avenir. Si l'on se penche sur les années 70, on voit que la capacité des États-Unis à être le point d'ancrage du monde capitaliste était épuisée, d'ores et déjà, pour plein de raisons liées aux guerres et à la périphérie du système. Et en fait, l'ordre militaire s'est lui aussi délité. Et les accords de paix entre le capital et les syndicats ont eu un rôle aussi. Ce qu'on ne pouvait pas prévoir, c'est que le capitalisme pouvait se réaffirmer malgré tout grâce à la mutation technologique, la mondialisation, le développement des marchés mondiaux, la migration de sociétés d'un pays vers l'autre, et ça, c'était totalement imprévisible. Et par ailleurs, s'agissant de la fidélité des masses, on peut dire qu'elle était assurée non pas par le tissu politique, mais par l'avènement de la société de la consommation de plus en plus sophistiquée, de la consommation de plus en plus rapide et facile. Donc, pour en revenir à ces années 70, l'accord de paix ou d'équilibre n'était plus durable. Et je voudrais signaler qu'il y a des gens qui pensent que c'était la crise pétrolière qui était le seul élément. Non, c'en était un parmi d'autres. La crise pétrolière était en fait un facteur important du PIB des sociétés qui étaient déjà en déclin. Donc à partir de là, on voit un taux de croissance qui baisse, une inégalité qui augmente, et on voit également une augmentation de la dette des sociétés capitalistes, et ce, à un rythme effréné.
Alors ce livre, cet essai du temps acheté, donc trois conférences Adorno réunies autour de cette thématique, porte ce titre parce que l'idée force de votre réflexion réside dans le fait de montrer que depuis ce moment de la crise, depuis ces années 70, le capitalisme joue la montre en quelque sorte. Le capitalisme, c'est acheter du temps, selon l'expression anglaise, pour survivre, se survivre à lui-même, et en quelque sorte, on pourrait dire en faisant un jeu de mots que le capitalisme, depuis lors, vit à crédit, Wolfgang Streck.
Remontons au 19e siècle, si vous le voulez bien. Les théoriciens du capitalisme ont mis en exergue la fragilité et l'improbabilité de succès de ce système.
bourgeois économistes, like
même
Schumpeter, for example,
Schumpeter économiste bourgeois par excellence, savait que le capitalisme allait disparaître pendant sa vie, et Keynes aussi, enfin, le pensait du moins. Donc, on se trouve avec une succession d'inventions, beaucoup d'innovations. Donc, on met des rustines, on répare le système, même s'il y a des morts, je pense aux dictatures, aux guerres. La première partie du XXe siècle était une période de destruction d'un point de vue économique et du point de vue physique et humain. Et évidemment, ça a mené aux 30 glorieuses, on le sait. Et c'est là qu'on a assisté à la reconstruction du monde sur un mode capitaliste. L'invention de nouvelles façons de maintenir en vie ce système fragile, eh bien, on peut voir ça dès les années 70. Tout d'abord, il y a eu l'inflation, puis une augmentation de la dette publique, puis une augmentation de la dette privée, la dette des ménages, et aujourd'hui, on voit l'augmentation énorme de la production monétaire des banques centrales. Et tout cela est lié à la manipulation de l'institution centrale du système capitaliste qui est l'argent, d'où le titre, du temps acheté, avec de l'argent, évidemment. Alors, on peut augmenter la masse monétaire avec l'inflation, évidemment, ou alors on peut créer un énorme système financier d'une telle ampleur inimaginable par Keynes ou Schumpeter. À partir de ce système, on peut emprunter et on peut remplacer les emprunts publics par des emprunts privés. Colin Trauch appelle cela le keynésianisme privatisé. Et aujourd'hui, les banques sont totalement déboussolées et les derniers recours, à savoir les banques centrales avec leur planche à billets qui peut fonctionner tout le temps de façon illimitée, sont en fait les seuls leviers de l'économie capitaliste. Mais cela ne peut pas durer non plus. Ça ne peut pas durer éternellement. Donc, il va falloir trouver une nouvelle solution. Ou alors, il va se produire un événement qu'on ne peut pas prédire. Mais étant donné que l'inflation n'a fonctionné que pendant 10 ans, et étant donné que la dette publique n'a pas fonctionné très longtemps non plus, et la dette privée pareil, aujourd'hui, nous avons à faire face à la solution éventuelle que constitue la production de monnaie, la planche à billets, mais c'est une solution, mais un problème. Mais ça ne va pas durer. Autrement dit, il faudra de nouvelles solutions à terme.
Alors, cette évolution des 40 années est d'abord et avant tout le produit de millions d'interactions sociales. C'est avant tout un phénomène social et économique. Néanmoins, les idées ont eu aussi un rôle à jouer dans cette évolution. Et vous parlez dans votre réflexion d'une véritable révolution néolibérale avec le fait que une figure comme celle de Hayek est venue supplanter la référence keynésienne et peut-être même évidemment la référence plus ancienne à Karl Marx, pour citer trois penseurs du capitalisme et trois moments du capitalisme. Wolfgang Streck.
One has to think about how new ideas.
Oui, il faut regarder comment surviennent les nouvelles idées ou comment les bonnes vieilles idées reviennent à l'avant-scène après avoir été un petit peu délaissées, étant donné qu'elles n'étaient pas très ancrées dans la réalité. Eh bien, les gens inventent de nouvelles idées ou redécouvrent d'anciennes idées lorsque les idées actuelles ne fonctionnent pas. Dans les années 70, la gestion de l'économie capitaliste telle qu'elle avait été inventée dans l'après-guerre ne fonctionnait plus. Et cela, on le voit dans les taux de croissance en berne et l'augmentation de l'inflation. À cette époque, la révolution néolibérale avait la voie ouverte pour, comme l'a dit Ronald Reagan, savoir que l'État n'est pas la solution, l'État est le problème de l'intervention du secteur public. Donc, et donc le processus de repli institutionnel a eu lieu. Et donc, l'idée était de découpler l'économie et la séparer des institutions économiques de l'après-guerre, de telle sorte que les marchés puissent produire des résultats qui étaient imperméables à l'intervention publique, en espérant que cela pourrait restaurer la dynamique de croissance du système. Ça n'a pas été le cas, bien entendu. Mais jusqu'à présent, ce qui nous manque, c'est une autre possibilité convaincante, une autre solution. Et c'est lié au fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans une économie mondialisée et nos outils économiques sont soit de nature nationale ou alors ce sont des outils américains. Et les États-Unis, évidemment, c'est un État assez particulier.
Wolfgang Streck, vous venez de parler de démocratie, de l'articulation de plus en plus difficile entre ce régime politique et le capitalisme. Elle est aussi, cette articulation, au cœur de votre réflexion de sociologue et d'économiste. Et en cela, vous rejoignez une des intuitions de cette théorie de Francfort que l'on a peut-être eu tendance à rejeter un peu trop vite, alors qu'elle avait quelque chose finalement de prémonitoire, en posant la question de la légitimité politique très très tôt, à la fin des années 60. Cette question de la légitimation est au cœur des théories de l'école de Francfort et vous la reprenez aujourd'hui à votre compte.
Les
années 60, les théories de l'école de Francfort ont reposé sur l'hypothèse que l'ère du capitalisme libéral était révolue et que le capitalisme était devenu intégré avec l'État et la gestion publique dans une certaine mesure, sachant que les contradictions fondamentales enracinées dans l'économie capitaliste sont suspendues, en quelque sorte. Et que le problème s'était transféré dans la sphère culturelle, autrement dit la légitimité d'un point de vue politique ou alors ce qu'Adorno appelait l'industrie, le secteur de la culture, la production d'une fausse conscience par, disons, l'industrie de la culture, si on peut dire, l'entertainment. Mais moi, je dis que ça, c'était prématuré, en fait. Et les conflits fondamentaux de l'économie capitaliste existaient encore. Il ne s'agissait pas simplement de créer de la légitimité. La légitimité, on peut l'avoir. Les gens peuvent aller acheter, consommer comme des dingues, mais en même temps, l'inégalité dans la société peut augmenter, les taux de croissance peuvent chuter, l'optimisation de l'économie ne peut pas se faire, l'environnement, on peut le détruire autant qu'on veut. Ce sont des problèmes structurels qui sont à l'œuvre. Dans mon essai, du temps acheté, j'argue que dans une économie capitaliste, et politique, il y a deux points d'équilibre qui sont rarement atteints et dont on traite très peu. Tout d'abord, il y a l'équilibre politique. Dans ce cas-là, le gouvernement a la légitimité auprès des masses, il y a une espèce de justice sociale, le peuple est content. Et sinon, il y a l'équilibre économique. Là, c'est quand les résultats du marché restent en équilibre et on ne s'en préoccupe pas. On laisse le marché agir comme bon lui semble, et ça ne nuit pas à la société. Moi, je dis que, à mesure que l'on essaye d'atteindre l'équilibre politique, inévitablement, on ne respecte pas les conditions de l'équilibre économique. Mais si on se tourne du côté économique pour stabiliser l'économie, eh bien, on rencontre un problème politique. La France, à l'heure actuelle, constitue un exemple merveilleux, ou un très mauvais exemple plutôt, de ce que j'essaye d'expliquer. expliquer. Donc, la politique dans une société démocratique fait passer l'attention d'un équilibre politique vers l'équilibre économique et vice versa. Et ça, on le voit aujourd'hui en séquence.
Et
j'en profite pour ajouter que le problème sous-jacent essentiel de tout cela, c'est que le capitalisme, c'est un régime économique dans lequel il faut que les gens travaillent pour accumuler du capital qui ne leur appartient pas, mais qui appartient à d'autres. Il faut donc pousser les gens à travailler, il faut pousser les gens à consommer, et il faut pousser les gens à accepter le fait que la richesse qu'ils produisent va appartenir à quelqu'un d'autre. Et pour y parvenir, il faut adopter de la persuasion et des méthodes très sophistiquées. Et puis, il faut également de l'intervention économique et de la redistribution dans une certaine mesure pour que les gens pensent qu'ils font partie du système et qu'ils en bénéficient et que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va empocher leur travail. Et ça, je peux vous dire que c'est de l'équilibrisme et c'est très, très difficile d'y arriver.
Alors vous disiez, Wolfgang Streck, que la France offre un exemple particulièrement significatif, particulièrement symptomatique des relations aujourd'hui entre le capitalisme et la démocratie. Mais on pourrait élargir le propos, puisque cette période de temps que vous regardez, elle est aussi concomitante de la construction politique d'une Union européenne, et que l'Union européenne elle-même offre un exemple encore plus dramatique, en quelque sorte, de ce divorce entre l'économie et la politique.
You're entirely right.
Oui. Vous avez tout à fait raison. L'Europe a été construite sous forme de régime économique. Régime économique censé gouverner l'économie des pays européens sans être touché par des pressions politiques ou électorales. Les pressions, elles devaient être exercées au niveau national et les gouvernements nationaux devaient être responsables de la satisfaction de l'électorat et chacun pouvait choisir sa méthode pour s'y prendre pour que ce soit en adéquation avec la décision des technocrates de Bruxelles et par les négociations bilatérales et multilatérales. Eh bien, ce problème a été exacerbé lorsque l'union monétaire a été instituée. L'union monétaire transfère les décisions économiques vers deux institutions. Tout d'abord, un système de règlement. Les Allemands, vous le savez, adorent la gestion par les règles. Les Français, un petit peu moins, je ne suis pas tout à fait certain, mais bon, peut-être un divorce là aussi, bref. Donc,
et
il y a également une série d'institutions telles que la BCE, Banque Centrale Européenne, et qui n'ont rien à voir avec la politique. Et quand je dis ça, je dis qu'il y a une politique bien particulière qui est menée. Donc, on essaye de soustraire l'économie à la décision politique, ce qui est une façon de faire, certes, mais si l'on fait voter les gens, eh bien, c'est pas votre bulletin dans l'urne qui va changer les décisions de M. Draghi. M. Draghi, lui, écrit à M. Hollande et il écrit à M. Lorenzi pour leur dire eh bien, le type de loi qu'il faut qu'il vote dans les deux ou trois années à venir pour que lui, il puisse continuer à les soutenir. Et ça, c'est une situation totalement absurde, mais en réalité, c'est quand même en adéquation avec la trajectoire que je décris dans mon ouvrage.
Alors, quelle solution ? Vous gardez bien d'être trop précis. Pour vous, ce n'est pas forcément le rôle des sciences sociales d'apporter des solutions politiques précises, mais déjà de poser un diagnostic et de proposer une analyse des raisons qui ont amené à cette situation et d'être en mesure d'expliquer les processus, les dynamiques encore à l'œuvre. Néanmoins, certains ont pu lire dans votre propos comme une tentation pour une forme de repli national, pour un retour à la forme de l'État-nation face à cette construction européenne. Et c'est notamment la tonalité de la critique qui, j'imagine, a eu beaucoup de poids adressé par Jürgen Habermas à votre travail. Jürgen Habermas, lui-même issu de cette tradition de Francfort et européen convaincu, saisissant toutes les opportunités pour défendre l'Europe. Alors dans la version française, c'est la chance qu'on a en France de votre livre, donc qui vient de paraître, Du temps acheté, vous faites paraître non pas la critique d'Habermas, mais votre réponse à cette objection que Jürgen Habermas vous a adressé. Que lui répondez-vous, Wolfgang Streck?
Avant toute chose, je dirais que
ce livre s'adresse aux citoyens et pas aux responsables politiques. Je voudrais influencer notre compréhension de ce qui se passe en Europe. J'essaie d'expliquer les différentes raisons pour lesquelles nous sommes où nous en sommes.
Et
évidemment, je ne vais pas proposer de solution. Le message clé de mon ouvrage, c'est qu'il y a des difficultés et il n'y a pas de solution facile. Bon, ça, il faut le digérer. Une fois de le digérer, on peut faire semblant de savoir ce qu'il faut faire. S'agissant de Habermas et de sa critique, donc il y a ce monstre de processus d'intégration européenne, je dis que c'est assez monstrueux parce que ça l'est devenu, mais il faut éviter la confusion. Après les élections européennes, Habermas a accordé un entretien au Frankfurter Allgemeine, dans le quotidien allemand, et il a insisté dans cette interview sur le fait que Juncker devrait être nommé président de la Commission européenne parce que sinon, la démocratie européenne serait en péril. Quelques mois plus tard, comme on le sait, d'autres, comme le savaient d'autres hein, d'ailleurs, qu'il s'agissait là des artisans de l'évasion fiscale et de la collusion avec Google et d'autres acteurs, et que cet homme-là, Juncker, avait bâti sa carrière en tant que lobbyiste auprès des banques et qui avait tout à fait conscience des paradis fiscaux et ainsi de suite. Autrement dit, c'est un petit peu comme si le braconnier devenait garde de chasse. Donc, si on va trop loin, on peut se retrouver avec des surprises quand même assez déplaisantes, d'une façon plus générale. Et mettons cela de côté. L'élément le plus sérieux dans tout cela, c'est que l'on peut faire de l'ingénierie à l'inverse pour savoir ce qui aurait dû être fait dans les années 90 avant la mise en place de l'union monétaire. Nous savons rétrospectivement que des erreurs fondamentales ont été commises et personne ne sera prêt à dire sérieusement le contraire. Pour défendre l'union monétaire, on peut dire que c'est mal, certes, c'est pas terrible, mais on ne peut plus en sortir. Et si on en sort, ce sera pire. C'est la seule chose bien que l'on puisse dire de l'union monétaire. C'est quand même pas terrible comme argument de défense. Et dans mon ouvrage, j'essaye de mettre en lumière le fait que ce n'était pas la seule réaction possible aux problèmes économiques des années 90. Aujourd'hui que nous avons l'union monétaire, je ne pense pas que les leaders, les responsables politiques européens auront le courage ou la sagesse de revenir en arrière et d'arriver à un système plus souple. Aujourd'hui, nous avons un régime monétaire de l'étalon or entre les différents pays. Et en 1932, Keynes a dit que c'était mortel pour la démocratie. En 1932, hein, Keynes a dit ça. Et ben nous, on a ça aujourd'hui. Moi, je pense qu'on ne pourra pas en sortir de ce système. Et je pense que ce sera très difficile dans les 10 ou 20 ans à continuer de vivre de la sorte.
Merci beaucoup, Wolfgang Streck. Je rappelle le titre de ce livre « Du temps acheté », une analyse passionnante de cette crise sans cesse ajournée du capitalisme démocratique. Ce livre paraît aux éditions Gallimard. C'était la suite dans les idées. Sylvain Bourmeau, attaché d'émission, Geneviève Méric. Merci à Xavier Combe pour la traduction depuis l'anglais. Et à la technique aujourd'hui, Léa Le Foll, à la réalisation, Ghislaine David. Dans quelques instants, on retrouve Jean Deloisy sur l'antenne de France Culture.